Alors aujourd'hui, on va lire dans l'évangile de Jean, c'est dans les lectures du jour, au chapitre 14, des versets 1 à 14. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. » Vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Jésus lui répondit, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi ? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, quand je dis « je vis dans le Père » et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous me demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous avez entendu ? Il est parti. Mais il reviendra. Et je me demande s'il n'est pas déjà en train de revenir, à sa manière un peu secrète, un peu respectueuse, un peu libre. Vous savez, à la manière du vent. Il y a un mois, j'ai vécu une parabole. C'est le lendemain que je me suis dit, mais ça, c'est une parabole. Et le lendemain, j'ai raconté cette histoire à quelques amis. Je vais vous la raconter aussi. Voilà, pour fêter mon anniversaire, nous sommes allés, mon mari et moi, au restaurant. C'était un bon restaurant, avec des plats très fins et originaux, et du bon vin, et une salle agréable, pas trop grande. Les autres convives avaient l'air heureux, et nous aussi. La seule chose qui fâchait, si on peut dire, c'est que dehors, il tombait des cordes. Le genre orage qui fait qu'on n'avait pas pris les parapluies. Au moment de sortir, un autre couple sort en même temps que nous. Et les deux hommes font la même chose. Ils nous disent « Je vais chercher la voiture, attends-moi ici. » Nous attendions donc, tranquilles, sous l'auvent du restaurant, et la jeune femme se tourne alors vers moi et me dit « On a de la chance. » Alors pourquoi je l'ai reconnue comme parabole, cette petite histoire. C'est que très souvent, je me lamente. Je me dis que je voudrais bien que Jésus soit là, évident, accessible, sécurisant. Mais en fait, il est allé chercher la voiture. Et nous avons de la chance. Ce qui peut être vécu comme une absence terrible est en fait une présence aimante. Un amour chanceux. En arabe, la chance se dit baraka. Et en hébreu, barek, c'est le verbe bénir. Nous sommes chanceux. Nous sommes bénis. Et cela peut être juste et bon de le manifester, de le partager. Nous pouvons nous bénir les uns les autres au nom du Seigneur. Dans le texte que nous venons de lire dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. » Alors, savoir comment ça se passe, ce n'est peut-être pas notre affaire. Est-ce qu'il va y avoir un grand chambardement ? Certains l'ont cru et mis en parole, en image presque. Auquel cas, la voiture qu'il est parti chercher serait plutôt un 4x4 ou un énorme bus, et il reviendrait tout klaxon hurlant dans des nuées d'apocalypse. Ou bien, et certains textes le laissent supposer, il est en train de revenir. Et avec l'aveuglement qui nous caractérise, on ne voit rien, nous. Quand Jésus parlait de l'Esprit Consolateur qu'il nous enverrait tout bientôt, est-ce que ce n'était pas de lui qu'il parlait ? Et quand, avant sa passion, il prépare tout doucement ses amis à la réalité de sa mort, tellement injuste. Et quand il les prépare doucement à sa résurrection, tellement incroyable. Et quand il les prépare doucement au sevrage de la séparation physique, tellement pénible. Et quand il les prépare au grand vent de la liberté du témoignage, tellement déstabilisant. Et quand il les prépare doucement à la grande patience de l'Église en marche, tellement énervante, est-ce qu'il n'est pas en train de nous apprendre un secret ? Le secret de sa présence dans l'absence. Nous chantons souvent dans les spontanés des lectures bibliques, et à chaque fois ça me fait sourire intérieurement à cause des paroles, nous chantons « En attendant l'heure où tu reviendras, avec nous demeure et guide nos pas. » D'un point de vue strictement logique, c'est pour le moins surprenant. Il est parti, il va revenir, ou bien il est là. Je crois qu'il est parti, d'une certaine manière, et qu'il est là, d'une autre manière. Et si nous avons une petite nostalgie du temps où on pouvait le voir en vrai, le toucher, lui parler en vrai, alors il faudrait bien écouter ce qu'il a dit à ses amis, et qui est vrai aussi pour nous. Il est bon pour vous que je m'en aille et je vous enverrai l'Esprit. Dans le passage que nous avons lu, il dit aussi à Philippe, qui, comme nous, ne comprend rien à la Trinité, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Notre sang protestant ne fait qu'un tour, cacher ses œuvres que je ne saurais voir. Mais déjà, on peut traduire le mot « erga » en grec par « travail ». Et ensuite, on peut se considérer comme recruté par Jésus pour ce travail qu'il fait maintenant et qu'il nous demande de faire avec lui. Non pas pour gagner notre salut, pour le salut, pas de souci, il s'en est occupé, l'affaire est faite. Non, c'est pour participer au travail de création, de guérison, de bénédiction qu'il nous recrute. Le Fils nous emploie au travail de son Père. C'est très impressionnant cette confiance qu'il a en nous. C'est à peine croyable. Et de la même manière que le bûcheron finit par ressembler à l'arbre solide, le pêcheur finit par ressembler à la houle puissante. Le professeur finit par ressembler à la rigueur mêlée de subtilité de la pédagogie. Le secrétaire finit par ressembler à la solidité de la confiance. L'infirmier finit par ressembler à l'attention qu'il manifeste aux vivants. L'artiste finit par ressembler à la beauté et à la complexité du monde. Le fonctionnaire finit par ressembler au service du bien commun. Alors, si nous faisons le travail du Fils, nous finirons par ressembler à l'amour du Père. C'est de plus en plus impressionnant, cette affaire. Ce qui rassure un peu, c'est que d'autres l'ont vécu avant nous, cette histoire. Différemment, parce que le contexte était différent, les histoires individuelles aussi. Personne n'a la même histoire individuelle. Mais quand même, nous participons de la même vie de Dieu. Ça doit être ça, la communion. Tout à l'heure, avec les enfants, nous avons parlé des repères qui peuvent nous aider quand nous sommes perdus. La Bible en est un de taille. Je vais vous avouer que parfois, je lis la Bible comme une enfant qui joue. J'ouvre au hasard et je teste. Ah ah, voyons voir ce qu'il a à me dire par les textes, ce Dieu qui se cache. Ce petit jeu n'est pas innocent comme il en a l'air. Je teste Dieu carrément. Certains disent même que je tente Dieu. Là aussi, d'autres l'ont fait avant moi, et ça n'a pas été souvent très heureux. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire la Bible tout seul. Je parle de l'état d'esprit, c'est le cas de le dire, dans lequel les textes peuvent prendre sens. Et très souvent, pour moi, mais ça peut être différent pour d'autres, très souvent pour moi, la lecture, la compréhension de la Bible est heureuse quand elle est partagée. Quand je prépare une prédication, vous êtes là. Quand nous échangeons dans le cadre du semainier, nous sommes là. Quand, en équipe, nous préparons un débat délicat, nous sommes ensemble à écouter les textes bibliques et leur résonance actuelle dans nos vies. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut être ensemble et seul, ensemble et perdu. Et c'est pour cela, peut-être, que celui qui nous aime, au-delà de ce qu'on peut espérer, nous dit, c'est juste après l'extrait que nous avons lu dans l'Évangile de Jean, il nous dit, « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera l'Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. » Cette suite nous éclaire un peu sur les deux derniers versets de l'extrait que nous avons lu. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le premier qui me présente une équation mathématique vérifiée de la Trinité, je l'embrasse. Toujours ce besoin de rationalité qui parfois peut nous faire passer à côté d'une vérité indicible en termes rationnels, mais qui pourtant ne fait pas offense à notre intelligence. Il y a de grands scientifiques qui sont croyants, il y a de grands poètes qui sont croyants. Alors pas de panique, nous ne sommes pas obligés de tout comprendre à la Trinité pour vivre, aimer et prier. D'après ce que je crois comprendre, il n'y a qu'une chose à demander dans la prière, c'est l'Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, ne nous en privons pas. Nous connaissons maintenant le chemin. Amen.